Bonjour à toutes et à tous. Dans la vie, on cherche toujours un but dans la vie, un but général, mais aussi un but occasionnel. Quand on fait quelque chose, on cherche quelque chose, on attend quelque chose, un événement qui va passer, qui va se passer. Et lorsque ces événements, cet événement, il passe, on cherche un autre but dans notre vie. Parce que comme ça, ça nous donne beaucoup d'ambiance, ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup de, le fait d'attendre quelque chose, c'est important. Et ça existe chez tout le monde, pour ceux qui vivent leur vie joyeuse. De toute façon, c'est bien d'avoir un but. Mais aussi pour ceux qui vivent une vie difficile, le fait même qu'on a quelque chose à attendre, ça leur aide à traverser ces moments difficiles. Je me rappelle lorsque mes enfants étaient tout petits, et nous, dans notre la religion juive, il y a ce Shabbat, que dans ce Shabbat, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Parmi les choses qu'on ne fait pas Shabbat, c'est qu'on ne porte pas à l'extérieur. L'extérieur, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. L'extérieur, c'est un domaine public, mais un domaine public, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, dehors, on ne porte pas. Donc, si il n'y a pas les conditions qui sont réunies pour porter, donc on ne porte pas, comme dans notre ville Dijon, d'autres, on ne porte pas Shabbat. Et alors, lorsqu'on était avec nos enfants à la synagogue, qui parfois c'était un petit peu un bout de chemin, les enfants étaient tout petits, qui étaient capables de marcher, mais quand même, au bout de 5 minutes, ils ont demandé de leur porter sur les épaules, comme on le fait dans la semaine. Mais puisque c'est Shabbat, alors on a cherché des moyens de les motiver de marcher. Et on a dit, voilà, vous voyez, tu vois, c'est feu rouge, regarde bien, combien, on a trouvé toujours quelque chose. On va compter que jusqu'à temps pour arriver à ce feu rouge, comme ça il a oublié, il était motivé. Une fois on arrivait à ce feu rouge, alors on cherche une autre motivation, un autre but. Et comme ça on avance petit à petit. Et dans la vie, c'est des choses qui sont nécessaires parfois pour garder ce moral, oh, on a besoin toujours de quelque chose de spécial qui va arriver bientôt. Donc ça, c'est dans la vie normale. Mais est-ce que toutes ces étapes sont juste pour nous motiver ou c'est nécessaire? Alors, c'est vrai, les deux, parfois, c'est pas nécessaire, c'est juste pour nous motiver, mais toutes ces étapes sont pas nécessaires. Dans notre paracha de cette semaine, on parle justement des étapes. Les étapes donnent leur voyage dans le désert, pendant leur voyage dans le désert, ils ont passé 42 étapes. Alors, même ce que la Torah nous a déjà raconté, elle nous a parlé de ça avant, mais depuis la sortie de l'Égypte, la Torah nous raconte de différents événements, y compris aussi la majorité de ces étapes qui étaient déjà mentionnées dans la Torah. Mais ici, la Torah, elle répète. Et on se demande pourquoi la Torah, elle répète parfois des choses qui étaient déjà dites. Et Rashi explique parmi les deux explications, il y en a deux explications, mais il y a une explication très intéressante qui dit que c'est comme un roi qui devrait voyager avec son fils malade dans un endroit pour se soigner. Mais sur le chemin, il y avait, puisqu'il était malade, il y avait des soucis. Ici, il avait mal à la tête, ici, il avait ça, il avait ça. Donc, mais quand même, ils ont continué le chemin pour pouvoir être guéris. Une fois guéri, une fois sur le chemin de retour, le père, il rappelle à son fils, il dit, tu te rappelles qu'on était là, tu avais tel problème, tu te rappelles qu'on était là, il y avait tel problème. Mais maintenant, il regarde autrement, parce que lorsqu'ils ont passé vraiment par là, c'était une souffrance. Oh là là, il a tel problème, comment on va faire? Finalement, on a pu passer cette étape, mais il y avait une autre étape, d'autres difficultés. Et encore, donc le père, maintenant, il le rappelle, mais maintenant, il le regarde autrement, parce que c'est plus dans la réalité, finalement, maintenant, il est bien le fils, donc il se rappelle de ça comme une belle, en fait, belle, mais en tout cas, comme une expérience. Et parfois, c'est une expérience riche que maintenant, je suis content que finalement, je regarde autrement la vie. Et parfois, je comprends que ces étapes étaient nécessaires dans ma vie. Alors, lorsque j'ai vraiment passé par ce schéma, j'ai regardé ça comme une catastrophe. Mais maintenant que je revois l'histoire, je le revois autrement. Donc ça, c'est l'exemple que Rashi donne. Et c'est pareil aussi pour la sortie de l'Égypte. Ils ont sorti, mais pas tout était tout rose tout le temps. Il y avait tel problème et tel problème. Et maintenant, à la fin, lorsqu'ils sont prêts pour entrer dans la terre promise, et là, Moshe, il leur rappelle toutes ces étapes, mais là, il voit toutes ces étapes, même les moments les plus durs dans ces étapes, il les voit autrement. Il les voit comme quelque chose, tout d'abord autrement, mais plus que ça, il les voit comme des étapes nécessaires, que grâce à ça, on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est ça, la vraie vision de la vie, que même si on a du mal à comprendre, il faut voir les difficultés de la vie comme des étapes. Alors en même temps, bien sûr que nous, on ne cherche pas de difficultés. L'homme, il s'arrange à être le mieux possible. Mais en même temps, une fois passé, des difficultés qui sont passées, il faut comprendre que c'est des épreuves. Et c'est ça un petit peu le sujet de notre paracha, puisqu'on sait que la Torah, elle nous parle de faits, des choses qui se sont passées dans tel endroit ou tel endroit. Mais en même temps, la Torah, il faut la prendre comme quelque chose de beaucoup plus large. C'est vrai qu'on parle de 40 années dans le désert qui sont passées, ils ont passé telle et telle étape, de telle et telle étape. Mais en même temps, il faut la prendre beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus large. Comme les gens qui traversent le désert, il y a différentes manières de voir le désert. Mais le désert, c'est un endroit où ça ne pousse pas, où il n'y a pas de vie. Et là aussi, dans notre vie, on passe des moments difficiles. On a l'impression qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de choses positives. Mais puisque la Torah nous a raconté comment ça s'est passé dans à l'origine, entre la sortie de l'Égypte et l'arrivée dans les pays promis, dans la terre promise. Là aussi, il faut traduire ça à notre niveau. Et chacun, il doit traduire ça à notre niveau et voir que toutes ces étapes ont été nécessaires, même si que d'une part, il faut éviter les difficultés, parce qu'on ne cherche pas des difficultés. Il faut vivre une vie saine. Mais une fois qu'on est passé par là, alors il faut chercher, voir à quoi ça servait toutes ces difficultés. Et c'est pour ça que la Torah elle répète tous ces événements. Mais maintenant, après, au bout de 40 années, où on va regarder différemment. Alors ça, c'est vrai d'une façon très générale. Donc alors, selon ça, les différentes étapes de la vie, ce n'est pas seulement, comme on a dit tout à l'heure, pour nous donner une ambiance, allez, on avance, encore on avance, encore on avance. C'est parce que selon cette vision, chaque étape dans la vie est nécessaire. Maintenant, bien sûr que c'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a un Dieu qui nous a créés, qu'il nous a donné un but dans la vie, que chacun il a un but dans sa vie. Et parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu, on dit des choses qui ne sont pas forcément, bien sûr que tout le monde pense qu'il faut utiliser chaque occasion difficile pour surmonter les épreuves, mais là on rajoute quelque chose que le but de ces épreuves, c'est le but ça veut dire quoi? C'est lui qui m'a mis les épreuves, il attend de moi et que je vois autrement les épreuves, que je réagis d'une façon que ça va être positive pour moi et pas négative, tant que c'est possible. Donc alors à ce moment-là, il faut utiliser la foi, ça veut dire il faut savoir qu'il y a, il y a un Dieu qui a créé le monde, qu'il a fait un projet, qu'il donne un projet à chacun. À ce moment-là, si je regarde comme ça, comment on regarde comme ça, c'est une autre question. Mais si on regarde comme ça, alors à ce moment-là, c'est plus facile de voir comme ça la vie comme des étapes. Et c'est ça un petit peu l'idée de notre parasha, en tout cas le début de la deuxième parasha, puisque cette semaine, on va lire deux parashiyot. La deuxième, elle commence par El Masé, le voyage des peuples d'Israël dans le désert. Donc, on regarde ça comme des étapes pour avancer. Même les étapes difficiles, très difficiles, on les voit comme quelque chose, comme des étapes. Parce qu'il y a une question qui se pose aussi. Ici, on parle de voyage. Le peuple juif, ils ont voyagé, ils ont campé dans tel endroit, ils ont voyagé de tel endroit, ils ont campé dans tel endroit. Et c'est surtout dans les différents endroits que s'est passé des choses positives ou le contraire. Mais la paracha, elle parle des voyages. Les différents endroits, les différences entre un endroit et l'autre, c'est par rapport à leur... par rapport à la, au fait qu'ils ont campé dans tel endroit. Le voyage est toujours pareil. En fait, le voyage, c'est toujours le même voyage. La différence, c'est l'endroit où on se trouve. La Torah devrait normalement dire, voici le camping, là où ils ont campé sur leur schéma. Et la Torah nous dit, voici leur schéma. Alors, c'est ça que nos sages expliquent, que c'est exactement pour ça que la Torah nous dit ça, pour nous ouvrir les yeux, pour nous expliquer que même lorsqu'on a campé quelque part, on a arrêté quelque part, ça fait partie d'un long voyage nécessaire. Ça veut dire que toutes les étapes de la vie sont nécessaires pour avancer. Bien, alors maintenant, lorsqu'on rentre dans les détails, Rachid donne quelques exemples. Lorsqu'on parle de ce roi qui voyageait avec son fils pour se soigner, pour soigner son fils, donc le roi, il accompagne son fils, et il y a des problèmes dans le schéma. Il utilise les trois notions, même si apparemment il y avait deux notions, beaucoup parce qu'il y a 42 étapes, donc il y a plusieurs problèmes imaginaires dans le schéma, mais Rachid mentionne trois exemples. Et quels sont les trois exemples? Alors, Rachid dit que lorsqu'ils sont revenus sur leur schéma, ça veut dire qu'ils ont allé se soigner, ils ont allé pour que le fils se soigne. Et une fois qu'ils ont revenu sur le schéma, le père il dit à son fils, tu te rappelles, dans tel endroit il s'est passé telle chose, dans tel endroit il s'est passé telle chose. Et comme on a dit tout à l'heure, là il voit la vie différemment. Il voit comment finalement c'était nécessaire de passer par là pour arriver à telle et telle chose. Mais Rashi, comme on a dit, il utilise trois exemples. La première chose, il dit, tu te rappelles, ici, on a dormi. Bien. La deuxième chose, elle dit, ici, on s'est refroidi. Et la troisième chose, il dit, ici, tu sentais ta tête. Alors, là aussi, on peut le tourner de tous les sens, essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais tout d'abord, au niveau historique. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau historique? Alors, au niveau historique, explique le rabbi de Lubavitch que ces trois événements, ils se sont vraiment passés. La première chose, donc, ils ont sorti de l'Égypte. Alors, on sort de l'Égypte, mais la première étape, c'est lorsqu'on va aller dormir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça? Pourquoi c'est une étape dans la vie? Alors, bien sûr que le sommeil, c'est une étape dans la vie, mais là, ici, on va après expliquer ça au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau moral, qu'est-ce que ça veut dire? Au niveau psychologique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais au niveau historique, on sait très bien que en ce moment, on est dans des périodes où beaucoup des enfants, ils vont dans le centre aéré, ou même les autres, ils vont dormir quelque part, quitter la maison et dormir dans un endroit inhabituel. C'est pas toujours facile, c'est une épreuve pour certains. Et surtout ceux qui dorment un peu dehors, ils font en fait les différents campings de différentes manières, ils changent de leur habitude et c'est une épreuve. Et Donc ça, c'est la première épreuve. Lorsque t'es arrivé le moment de dormir, il y a où c'était. Donc c'était le premier voyage. Ils ont quitté Refidim. Refidim, c'était le lieu où tous les Juifs, avant la sortie de l'Égypte, se sont réunis. Et de là, ils ont quitté pour aller dans un endroit où il s'appelle Sukkot. Et à Sukkot, c'est la première fois qu'ils ont dormi. Et ensuite, la deuxième étape, c'est Kan Hokarno en hébreu, ça veut dire là, on se refroidit. Refroidir, ça veut dire quoi? Ça peut être après qu'il faisait chaud, on a trouvé un moment de se refroidir parce qu'il faisait chaud dans le désert. Mais effectivement, au niveau historique, comme la Torah nous raconte, que tout de suite, après la première étape, ils ont pris le chemin. Et là, puisqu'il faisait chaud, on est dans un endroit inhabituel, un endroit qui n'est pas habitable. C'est une période qui n'est pas très chaud, c'est vrai, mais il faut quand même assez chaud. On est proche du désert, on est dans cette région de l'Égypte. Certes que depuis 7 ans, l'atmosphère a changé à chauffer ou à refroidir, comme les différentes visions de cette période. Mais en tout cas, il faudrait avoir, pour marcher dans... On n'est pas encore dans le désert, mais on est quelque part dans une sorte de désert déjà, même à la sortie de l'Égypte. Alors, à ce moment-là, il faut avoir un sort de clim. Et effectivement, comme la Torah nous dit, que tout de suite après, avec le deuxième voyage depuis Sukkot, là, il y avait une sorte de nuage qui les a guidés. Et nos sages racontent ensuite qu'il y avait plusieurs nuages, quelque part, que ça formait comme une cabane, qui faisait une atmosphère agréable. Donc ça, c'est la deuxième étape, qu'on s'est refroidi. La troisième étape, comme il est marqué, là, tu as senti ta tête. Le rabbi explique que ça veut dire senti ta tête. Il y avait une épreuve à ce moment. D'un coup, il voit l'Égyptien heureux et donc il commence à se poser des questions. Pourquoi on est sorti de l'Égypte? C'est la première fois où on commence à se poser des questions. C'est bien, c'est pas bien. On a fait bien, on n'a pas fait bien de faire confiance à Moshe. Donc, quelque part, on a utilisé la tête et c'était une épreuve. Prendre une décision, qu'est-ce qu'on fait? On est perdu devant une situation dramatique. Qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est la notion de sentir sa tête, quelque part utiliser sa tête pour des épreuves. Chacun il sait que parmi les choses les plus difficiles, c'est quand on a du mal à prendre une décision. Même si on prend une décision difficile, mais le fait même qu'on sait qu'on a pris une décision, c'est parfois plus facile que de ne pas prendre une décision. Et là, que la situation était dramatique et floue, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, c'était une épreuve. Donc, Rachid nous parle de 3 épreuves. Là, on a dormi. Là, on a été refroidi. Et là, on a utilisé, on a senti notre tête. Ça, c'est au niveau historique. Au niveau spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va voir, mais il faut, comme on a dit tout à l'heure, que c'est la Torah entière et tout ce qui s'est passé dans la Torah, c'est vrai que c'est passé dans tel endroit, dans telle période, mais en même temps, c'est un message éternel pour la vie. De chaque détail de la Torah, on apprend pour la vie et c'est très intéressant. Mais ce qui nous concerne à nous, il faut savoir que la vie, comme on a dit tout à l'heure, on est dans le désert. Il y a un désert relative, la notion de désert, on peut l'utiliser dans plusieurs manières, mais quelque part, il manque des choses, il manque de vitalité, on est dans un monde difficile. Surtout selon cette vision, on sait qu'on a un corps, mais on a aussi une âme qui est dans le corps. Qu'est-ce que c'est cette âme? Alors, il y a 2 sortes d'âmes, mais il y a une âme qui elle existe avant même, c'est pas, elle ne dépend pas du corps, parce que nous, dans notre vie, on connaît seulement cette notion de que tout est lié avec le corps. On sent avec le corps, on comprend avec le corps, on voit avec le corps, mais en vérité, il y a une autre réalité, une réalité spirituelle et dont notre âme existe déjà avant. Et Dieu, il a décidé justement de lier corps à l'âme. Ça veut dire que l'âme, elle descend vers le corps. Alors, c'est vrai que lorsqu'il y a une naissance, c'est un grand joie. Et chacun le sait, on n'a pas besoin d'expliquer la joie, l'importance de la vie, comment la vie elle est sainte, elle est importante, et comment il faut éviter au maximum que quelqu'un il meure, parce que la vie est très, très importante. Et pourtant, il y a pas tout le monde sont contents au moment de l'arrivée de cette âme dans ce corps. L'âme elle-même, comme on nous raconte, elle n'est pas contente. Pourquoi? Parce que l'âme, lorsqu'elle se trouve dans ce sphère spirituelle, elle se trouve dans une autre ambiance. Et là, on rentre dans le problème, on rentre dans un monde où il y a des problèmes, où il y a telle envie, telle envie, tel problème, telles épreuves. Donc, ce n'est pas ça qui intéresse l'âme. Et pourtant, c'est notre rôle. Donc, alors l'âme, elle descend. Elle descend pas seulement physiquement, mais elle descend aussi spirituellement dans une autre ambiance. Et pour elle, c'est pas très joyeux. Et là, pour dire, puisqu'on a dit que la vie, elle fait des voyages, c'est un long voyage, la vie, et il y a des étapes, il y a des buts. Donc là aussi, la première chose, lorsque l'âme, elle descend vers le corps, la première chose que... La première réaction, ou bien le premier résultat, c'est le fait qu'elle s'endort. Ça ne va pas dire que l'âme n'est plus là, ça ne va pas dire qu'elle perd de ses capacités, de ses forces, mais elle s'endort. On ne la sent pas. Et comme quelqu'un qui est endormi, que son intelligence est là, mais il vit dans un autre sphère, il est moins réaliste, il utilise moins son intelligence, il utilise pas du tout le fait qu'il peut voir, il peut entendre, mais on est dans un autre espère lorsqu'on dort et lorsqu'on est dans la réalité. Quelque part, on considère que la première étape, c'est s'endormir. Mais puisque le but, c'est pas rester endormi, et il faut finalement que l'âme elle réagisse. Donc il y a cette notion de nuée, de refroidir. Ça veut dire quand quelqu'un qui dort, il est tranquille, il réagit pas, mais le fait de refroidir cette situation, donc quelque part, lui donner à nouveau cette force de révéler cette âme. Mais, bien alors, on lui donne cette force, mais cette force, elle doit passer, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Donc dans le libre arbitre, il faut que l'homme utilise sa tête, à réfléchir, je fais ça, je fais ça. Et c'est pas facile, parce que on a beaucoup de difficultés avec le libre arbitre, on est attiré par telle chose et telle chose, et c'est la tête qui doit décider, comme il est marqué, que c'est la tête qui, normalement, chez une personne, la tête dirige le cœur, et c'est pas le cœur qui dirige la tête. Ça veut dire que si je sais que quelque chose qui est bien, je le fais, même si que le cœur me dit le contraire, oui, je sais très bien que c'est parmi les grandes difficultés, mais c'est comme ça qu'un homme de bonne santé, il a la tête qui dirige le cœur et pas le contraire. Donc alors ça, c'est les trois notions de la vie. D'une part, il y a cette... on s'endort, on rentre dans un monde où il est quelque part opposé à nous. Donc l'âme, elle rentre dans un corps qui est opposé à elle, donc elle s'endort. Mais après, elle sent quelque chose, donc cet refroidissement qui l'aide. Peut-être autrefois on peut utiliser la notion de chaleur, mais là on va utiliser cette notion de refroidissement où il peut utiliser à nouveau se réveiller. Mais ça va pas marcher, le judaïsme, en fait, la vie en général, elle marche pas par des ambiances. Il y a des gens qui utilisent leurs sentiments, mais le judaïsme, c'est pas, pas seulement le judaïsme, d'une façon générale, la vision juive, c'est pas seulement le sentiment, je réagis selon le sentiment, c'est surtout le cerveau. Et donc ça c'est l'idée, la troisième idée, qu'on utilise notre corps, on est dans un monde où il y a des difficultés et des épreuves, et on utilise notre tête pour savoir comment faire. Et ça c'est les trois étapes dans la vie, mais en vérité c'est les trois étapes qui ils ont beaucoup de détails, parce que lorsqu'on parle de 42 étapes, il y a beaucoup d'étapes dans les mêmes notions, parce que dans les mêmes notions, on a beaucoup de détails. Alors, selon cette idée, effectivement, on est dans un monde où on a des épreuves, mais chaque épreuve, c'est pour nous faire avancer. Et c'est comme ça qu'il faut regarder la vie, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il me semble que les psychologues aussi, ils essayent d'expliquer. Alors, ce qu'il explique, que comment il faut regarder les choses négatives comme quelque chose de positif. Mais en tout cas, une partie de notre vie, c'est clair, et pour tout le monde, que ça dépend comment on regarde. Il y a quelque chose de très très positif, que si je regarde d'une manière, alors je peux être malheureux, mais si j'ai un autre regard, et c'est pas que je m'imagine des choses qui n'existent pas, parce que juste je vois les choses d'une façon juste, alors à ce moment-là, la vie est beaucoup plus heureuse. Alors ça c'est vrai pour tout le monde, et selon le judaïsme qu'il faut être toujours joyeux, c'est parce que c'est la vraie vision, que chaque détail, même les choses les plus difficiles, il a un but. Alors encore une fois, on ne cherche pas d'être malheureux, même si on, dans le judaïsme, les notions de travail et d'être actif est toujours nécessaire. Il est marqué, on sait qu'à la création du monde, Dieu il a mis l'homme dans le paradis. Lorsqu'on parle de paradis dans l'esprit général, c'est quelque chose de très positif, parfois sans difficulté, sans souci. Il y a une notion de paradis fiscal, il y a des paradis, on part en vacances dans un paradis relatif, bien sûr. Il y a cette notion de paradis, mais dans le judaïsme, on trouve tout de suite, au début, après la création, que Dieu il a mis Adam dans le paradis, mais quoi faire pour la travailler. Donc on trouve la notion de travail dans le paradis, parce que finalement, le travail, ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme quelque chose de négatif. On n'a pas le choix en travail, parce que sinon, on ne va pas gagner la vie. Mais la notion de travail, c'est quelque chose de positif. Donc, alors, travail, il y a plusieurs formes de travail, mais l'idée d'être actif, d'avancer d'étape après étape, même quand on parle de paradis. Comme d'ailleurs, on peut prendre l'exemple du sport, ceux qui aiment le sport. Alors parfois, il y a des étapes difficiles, mais eux, ils le voient comme quelque chose de magnifique. Et c'est comme ça qu'on regarde la vie. Et pour terminer, justement, puisqu'on rentre dans cette période qui n'est pas facile dans le judaïsme, une période difficile, une période de certains l'appellent la semaine maigre, certains l'appellent les 9 jours, jusqu'à le jour de Tisha B'Av, Nefav, où il y avait la destruction, où c'était le symbole de beaucoup de malheurs dans le monde juif. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des formes de malheurs, formes de difficultés. Mais donc, on rentre dans cette période. Et le rabbi, plusieurs fois, il a expliqué le rapport entre les parachiotes, puisque cette semaine, on va lire 2 parachiotes, une qui s'appelle Matot, une qui s'appelle Massé. Alors, avec la vision simple, il n'y a pas de rapport entre le nom de la paracha et le sujet de la paracha. En vérité, non, il n'y a pas de hasard dans le judaïsme, même là où c'est difficile à voir. Alors, il faut trouver, il faut chercher. Mais en tout cas, on va rester dans le nom. La paracha, la première paracha, elle s'appelle Matot. Matot, il s'agit de Moshe. Il a parlé au chef des tribus. Tribus. En hébreu, on peut dire, il y a plusieurs manières de dire tribu, il y a une manière de dire shevet, il y a une manière de dire maté, matot, matot c'est en pluriel. Maté, ça veut dire aussi un bâton. À l'époque, les dirigeants, ils ont eu un bâton dans la main. Mais c'est aussi, c'est pas juste comme ça, il y a un rapport, parce que chaque tribu, ou bien chaque mouvement, le fait même qu'on est différent l'un et l'autre dans la communauté juive aussi, il y a 12 tribus et encore une, celle de Lévi. Chaque tribu devrait être différent et ils ont gardé leur différence très ferme. Donc c'est ça, de là il arrive peut-être le nom matot, ça veut dire la notion des bâtons, on reste ferme. Donc ça c'est la première paracha qui s'appelle matot, bâton. La deuxième paracha elle s'appelle masé. Masé ça veut dire voyage, de ce qu'on parle depuis un peu de temps, leur voyage. Alors normalement on sait que, même si que souvent lorsque on va vers un voyage difficile, quand on grimpe les montagnes, parfois on utilise des bâtons pour garder notre équilibre. Mais quand même, dans une autre notion, c'est deux choses qui sont opposées. Lorsqu'on est dans le voyage, on est sensible. On change des habitudes. On a du mal à garder nos habitudes. À ce moment-là, on n'est pas de bâton. C'est pour ça peut-être qu'il faut utiliser un bâton parce que nos pieds, ils ne nous portent pas bien si on ne va pas utiliser un bâton, surtout quand le voyage est difficile, comme l'exemple de la montagne. Mais dans le symbole de cette idée, c'est qu'avec ces parachutes, on rentre dans une période, avec ces parachutes, on rentre dans une période où les peuples juifs, ils ont rentré dans un grand voyage. Et quelque part, un voyage qui nous a déséquilibrés parce que lorsque quelqu'un il est chez lui, il est ferme, il a ses habitudes, il garde ses habitudes, et il est beaucoup plus fort, il a moins de difficultés de garder ses habitudes. Lorsque, par contre, on quitte le lieu pour aller ailleurs, donc c'est difficile de garder ses habitudes comme c'est connu. Donc alors, matot et massé ne vont pas ensemble, matot. Ça veut dire être ferme, même au moment où on voyage, c'est pas toujours facile. Et c'est ça, quelque part, le message, que le contraire, non seulement que le voyage doit nous pas affaiblir, mais le contraire, le voyage nous renforce. Parce que lorsqu'on fait des choses par d'habitude, même si qu'il n'y a pas de difficultés, même si qu'il n'y a pas de mouvement, alors, c'est vrai qu'on est ferme, mais on n'est pas vraiment ferme. On est fort, mais on n'est pas vraiment fort. On est fort parce que la situation, parce que l'entourage nous aide. Mais par contre, lorsqu'on garde notre force, même au moment du voyage, c'est ça l'idée de matot massé, ça veut dire même au moment du massé, voyage, comme Nessia, l'histoire, même au moment du voyage, on est matot, on est fort, on est ferme. Alors ça montre une vraie force qu'on a. Ça veut dire que ce qui va se passer, on est ce qu'on est. Et c'est ce qui s'est passé avec le voyage, le long voyage qu'on avait pendant des générations entre un pays à l'autre, entre une situation à l'autre, entre de différentes choses. Et pourtant, rester ferme, ça c'est quelque chose qui développe, d'une part ça montre, mais aussi ça développe une force intérieure. Donc comme on a dit tout à l'heure, que le voyage c'est justement pour nous renforcer, pour faire en sorte qu'on soit vraiment fort. Et c'est vrai aussi pour le monde entier, les différentes épreuves qu'on a dans la vie, il faut le regarder comme quelque chose, c'est vrai que difficile, mais quelque part, qui nous forme, qui nous force, et que tout ça, c'est des choses qui nous amènent finalement, là aussi c'est les différents regards, mais là il faut un petit peu détailler, chacun peut détailler, il peut voir si on a cette vision que les difficultés c'est pour nous amener vers notre force. Alors là aussi, au niveau du monde, il va très mal aujourd'hui, en fait comme toujours, mais aujourd'hui certainement qu'il y a des difficultés qu'il n'y avait pas à l'époque, très beaucoup de difficultés, mais en même temps, selon la vision de la Torah, tous ces voyages, c'est pour arriver à quelque part. Et nous, on attend cette période messianique où on va arriver à quelque part dans un monde où il n'y aura que des biens, la paix et que la joie. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.